Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Tout d'abord, les grands titres de ce dimanche 10 avril. Les Australiens se rendront aux urnes le 21 mai prochain pour voter aux élections législatives. L'OTAN travaille sur des plans pour une présence militaire permanente sur ses frontières orientales. Le premier tour des élections présidentielles en France, c'est ce dimanche. N'oubliez pas d'aller voter si vous êtes français résident en Australie. En Australie, on ira voter le 21 mai prochain aux élections générales. Le Premier ministre Scott Morrison s'est rendu ce matin à Government House à Canberra pour demander au gouverneur général David Hurley le feu vert pour organiser les prochaines élections législatives. Un certain nombre de manifestants anti-gouvernementaux et des communautés aborigènes étaient devant la maison du gouverneur général avant l'arrivée du Premier ministre. Scott Morrison vise à remporter deux élections consécutives. Mais le Parti travailliste est en tête dans les sondages depuis juin dernier. Scott Morrison a publié hier une vidéo dans laquelle il souligne les catastrophes naturelles qui ont frappé le pays, l'environnement de sécurité mondiale instable et les risques confrontés par l'économie australienne.
You always have setbacks. You always have imperfect information. I mean, things are tough. And they've been really tough. There's drought, there's floods, there's fire, there's pandemic, there is now war. We're dealing with a world that has never been more unstable since the time of the Second World War.
Le ministre de la Défense, Peter Dutton, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que les îles Salomon autorisent la Chine à établir une base militaire. Cependant, l'Australie reste préoccupée par la militarisation croissante de la région. Les responsables des affaires étrangères ont découvert un pacte de sécurité entre la Chine et les îles Salomon lorsqu'un projet a été divulgué sur les réseaux sociaux. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce a demandé une copie de la accord. Le premier ministre des îles Salomon, Manasseh Sogavare, a depuis rencontré deux des plus hauts responsables du renseignement australien dans la capitale Honiara. Il a déclaré que son pays cherchait à élargir ses partenariats en matière de sécurité. Le premier tour des présidentielles en France, c'est ce dimanche et une forte abstention est attendue pour ce scrutin, comme nous l'explique Laurence Théo pour RFI.
Il y a ceux qui sont catégoriques, ils n'iront pas voter à la présidentielle. Et puis il y a les indécis, ils ne bouderont pas les urnes, mais ces électeurs se prennent la tête dans les mains et hésitent encore. Bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils, en ce début de printemps frisquet, Tristan est étudiant.
Sur cette présidentielle, c'est assez compliqué de faire un choix. Le débat a été un peu dissimulé derrière les événements actuels en Ukraine. Et on se rend bien compte que les problématiques qui nous, les plus jeunes, nous intéressent sont pas abordées. Je pourrais être amené à faire un vote par conviction et finalement j'aurais peut-être dû faire un vote utile, mais voilà, c'est la situation actuelle.
Un pied sur la pédale, l'autre à terre. Cette jeune femme a appuyé sur les freins de son vélo. Elle est dans l'incertitude.
C'est effarant, je trouve, l'impréparation de nos candidats en fait.
Et vous savez ce qui vous décidera finalement ?
L'émotion du moment, vraiment, ce sera en fonction de l'émotion du moment, je peux mettre d'un côté ou de l'autre. Sans plus de raison que ça.
Ces deux camarades, eux, sont même un peu plus qu'hésitants.
Non, je sais pas encore. À vrai dire, j'ai pas encore regardé les programmes.
Voilà, je suis un peu perdu, donc j'attends le deuxième tour et peut-être que j'aurai un avis un peu plus clair.
Toutefois, une chose est sûre, pour ces indécis, le droit de vote est aussi un devoir.
Et que pensent les électeurs de cette campagne présidentielle ? Écoutez ces réactions.
Il n'y a pas de campagne déjà, parce qu'on sait qui sera déjà élu.
C'était pas une campagne sereine.
Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette campagne présidentielle ?
Objectivement, pas grand-chose. C'est-à-dire que je l'ai trouvé très superficielle. Et les candidats n'allaient pas au fond des choses, comme quand il y a un combat de boxe, si chacun s'adapte à la technique de l'autre.
Il y a très peu de thèmes importants qui ont été abordés. On ne parle pas d'avenir à long terme, on ne parle pas de ce qui fera la France dans 10 ans, en fait.
Non, c'est une pseudo-campagne. parce que l'actualité finalement est beaucoup plus importante. L'actualité évidemment sortie de confinement, pandémie et puis tout de suite la guerre, qu'elle a été pratiquement inexistante.
L'OTAN travaille sur des plans pour une présence militaire permanente dans le but de contenir de futures agressions russes. L'alliance intergouvernementale est au milieu d'une transformation fondamentale qui reflétera les conséquences à long terme des actions du président russe, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans une interview au journal britannique The Telegraph. Selon lui, ce que nous voyons maintenant est une nouvelle réalité, une nouvelle normalité pour la sécurité européenne, et il a demandé aux commandants militaires de l'OTAN de proposer des options pour une réinitialisation, une adaptation à plus long terme pour l'organisation. Jens Stoltenberg a déclaré que les décisions seraient prises lors d'un sommet de l'OTAN qui se tiendra à Madrid en juin prochain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était déterminé à faire pression pour la paix et a renouvelé son appel à plusieurs pays pour qu'ils envoient davantage d'armes avant une recrudescence attendue des combats dans l'est de son pays. Il a fait ses commentaires un jour après qu'au moins 52 personnes ont été tuées lors d'une frappe dans une gare de la ville orientale de Kramatorsk et que des preuves de meurtre de civils ont été révélées après que les troupes russes n'ont pas réussi à s'emparer de la capitale Kiev. Volodymyr Zelensky se dit convaincu que les Ukrainiens accepteraient la paix malgré les horreurs dont ils ont été témoins au cours de la guerre qui dure maintenant depuis plus de 6 semaines.
No one wants to negotiate with a person or people who tortured this nation. It's all understandable. And as a man, as a father, I understand this very well, but we don't want to lose opportunities, if we have them, for a diplomatic solution.
Les troupes russes qui se sont retirées du nord de l'Ukraine se regroupent maintenant pour ce qui devrait être une poussée intensifiée pour reprendre la région orientale du Donbass, y compris la ville portuaire assiégée de Mariupol, que les combattants ukrainiens s'efforcent de défendre. Le président ukrainien a salué le courage de l'Ukraine alors qu'il s'adressait à l'événement d'engagement de l'Union européenne « Stand up for Ukraine », « Agir ». Pour l'Ukraine, à Varsovie, le chef de la branche exécutive de l'Union européenne dirige l'événement de collecte de fonds pour l'Ukraine et les personnes qui ont fui le pays. L'événement se tient à Varsovie parce que plus de 2 millions de personnes, des 4,4 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, sont entrées en Pologne. L'événement est destiné à inciter les dirigeants politiques et les célébrités mondiales à fournir des fonds et d'autres dons au peuple ukrainien. On écoute le président Volodymyr Zelensky.
45 days of a full-scale war and defense against Russians attack. The attack by the largest country in the world, the largest by its territory, the largest by its aggressiveness, the largest by its impunity. Russian leadership failed to account for one fact. The fact that it attacks the other largest country in the world, Ukraine. The largest by its courage.
L'opposition pakistanaise a renversé le premier ministre du pays, Imran Khan, lors d'un vote de censure qu'elle a remporté après que plusieurs alliés du premier ministre et un parti clé de la coalition l'ont abandonné. Le président de l'Assemblée nationale du Pakistan en a fait l'annonce. Imran Khan, quant à lui, a appelé ses partisans à organiser des rassemblements dans tout le pays ce dimanche. Reportage de Sonia Ghezali pour RFI.
La motion de censure a été approuvée par 174 députés de l'opposition. Annonce du vice-président de l'Assemblée, la majorité étant obtenue avec 172 voix, c'est une victoire pour la coalition de l'opposition qui laisse éclater sa joie dans l'hémicycle. Une victoire sans surprise puisque l'opposition avait la majorité depuis plusieurs jours. Scène de liesse, au cœur de l'Assemblée, les cris de joie ont retenti au fur et à mesure que les différents chefs de l'opposition faisaient leur entrée dans l'Assemblée. Fazoul Rahman pour le JUIF, Shehbaz Sharif pour le PMLN, Bilawal Bhutto pour le PPP, le Parti du Peuple, Aucun membre du gouvernement n'était présent puisqu'ils avaient tous quitté la salle lorsque la tenue du vote était annoncée peu avant minuit heure locale. C'est une journée historique pour le Pakistan car c'est la première fois qu'un Premier ministre est évincé du pouvoir par une motion de censure. Et reste à savoir comment le nouveau gouvernement va se mettre en place. Un gouvernement qui sera formé par une coalition de partis de l'opposition mais qui sont des rivaux politiques historiques. Certains craignent une période d'instabilité. D'autant qu'Imran Khan a averti qu'il ne respectera pas ce nouveau gouvernement. Imran Khan qui a aussi appelé à des manifestations ce dimanche soir. La crise politique au Pakistan est loin d'être terminée.
En Afrique, en Gambie, il y a eu des élections législatives hier et très peu de gens ont voté. Reportage Milan Bergmans pour RFI.
Devant le stade de Bakao et son bureau de vote à quelques kilomètres de la capitale, une petite vingtaine d'électeurs font la file. Parmi les premiers à voter, c'est la période de Ramadan qui explique le peu d'affluence et on a bon espoir que les autres électeurs arrivent plus tard dans la journée.
La participation est très faible, mais heureusement, les gens viendront plus tard. Pour ce qui est de la participation, les gens vont venir voter. C'est le Ramadan, alors ils viendront entre 1h et 2h cet après-midi.
Mais plus tard dans l'après-midi, dans un bureau de vote de Fajara, l'ambiance est encore plus calme. Sur ces 664 inscrits, Issatou Belaba, présidente de bureau de vote, n'en compte que 142. Du coup, elle tente de s'occuper.
Vous trouverez d'autres choses à faire, des documents à remplir pour perdre moins de temps en attendant la fermeture des bureaux de vote.
Du côté de Soukouta, quartier acquis au parti de l'opposition, l'UDP, les raisons avancées sont un peu différentes.
Je ne voulais pas voter, mais mon mari m'a forcé à le faire. En fait, je pense que ce n'est pas libre et juste et c'est pour ça que beaucoup ne veulent pas.
Selon des sources au sein de la commission électorale, la participation ne devrait pas dépasser les 40% à la fermeture des bureaux de vote à 17h.
Et on passe maintenant à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 22 degrés. Adélaïde, 29. Melbourne, 26. Hobart, 24. Canberra, 23. Sydney, 25. Brisbane, 28. Cairns, 33. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce 10 avril. Les Australiens se rendront aux urnes le 21 mai prochain pour voter aux élections législatives. Le premier tour des élections présidentielles en France, c'est ce dimanche. N'oubliez pas d'aller voter si vous êtes français résident en Australie. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.